Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 28 janvier 1987.
c'est-à-dire à l'appétit naturel. C'est lié à tout ça, l'imaginaire. Alors tout ce psychisme que nous portons en nous, hein, tout ce psychisme qu'on a élaboré beaucoup, on peut dire que ces dernières années, ce début du siècle, notre siècle est un siècle qui a étudié l'imaginaire. Ça, c'est vrai. C'est un siècle qui a étudié l'imaginaire, qui a essayé de trouver ce labyrinthe de l'imaginaire, le labyrinthe de l'imaginaire. Toutes les fausses portes et les fausses fenêtres de l'imaginaire. C'est assez extraordinaire. Alors l'imaginaire, le psychisme, tout le psychisme que nous portons en nous, il est ou ordonné vers le bas ou ordonné vers le haut, parce que c'est le domaine de l'anarchie. Les passions n'ont pas de finalité. L'imaginaire n'a pas de finalité. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de finalité dans l'homme, il est pris par l'imaginaire. Et l'imaginaire fait que nous ne voyons plus la finalité. Et nous sommes dans notre conditionnement et dans l'exercice et nous restons dedans. C'est ça le labyrinthe. Et le labyrinthe fait qu'on ne sait plus ce qui est imaginaire et ce qui est réel. On ne sait plus. Le rêve éveillé, c'est bien ça. Le rêve éveillé, on ne sait plus ce qui est imaginaire et ce qui est réel. On est dedans. On est dans l'immanence. C'est ça qui est extraordinaire dans l'imaginaire. C'est l'immanence. Une immanence avec beaucoup de demeures. Et puis cette capacité extraordinaire de synthèse. Les synthèses sont premièrement imaginaires. Ça, c'est... Et je vous ai déjà dit, c'est toujours très bon quand on étudie l'imaginaire. Il faut étudier l'imaginaire. C'est très très important. Et étudier notre psychisme. C'est la manière d'être lucide avec soi. Vous voyez ? Et c'est à partir de là qu'on comprend tout point de vue psychologique moderne. Mais j'aime mieux l'étudier philosophiquement. Parce que si vous l'étudiez psychologiquement, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Tandis que quand vous mettez des phares brouillards, parce que c'est ça, vous allez voir que la prudence, ce sont des phares brouillards. Et vous savez bien la qualité des phares brouillards. Hein. Demandez ça aux mécaniciens. La qualité des phares brouillards, ça prend par en dessous, parce qu'on sait que le brouillard ne touche pas au sol. Exactement. Il y a une petite distance entre les deux. C'est très très curieux. Ça ne touche jamais le sol. Ça fait comprendre comment l'imaginaire n'est pas réaliste. Parce qu'il y a toujours... Et alors on éclaire cette zone intermédiaire. Et par là, le brouillard est éclairé de l'intérieur. C'est très curieux. Et alors c'est intéressant pour essayer de comprendre ce que c'est que la prudence. La prudence sont des phares brouillards. Pas commode à allumer, hein. Il faut savoir le maniement. Et ça, ça s'acquiert. Parce que ça s'acquiert progressivement. On essaie de découvrir comment. De fait, on va éclairer ça de l'intérieur, parce que si vous éclairez l'imaginaire de l'extérieur, il est d'une subtilité qui passe à travers tout. Alors il faut l'éclairer de l'intérieur. Et la prudence est faite pour éclairer de l'intérieur. Ce domaine de l'imaginaire, il est très particulier. Puisqu'il inverse tout. Les sensations liées au jugement d'existence, le jugement d'existence lié aux sensations externes, donne le primat des sensibles propres et les sensibles communs conditionnent. Ça, il faut le comprendre. Et si on peut le comprendre, hein, faites l'analyse de vos sensations. C'est bon. L'analyse philosophique de vos sensations, vous touchez. Tous les matins, vous prenez votre petit café, plutôt que de pensez à n'importe quoi, pensez à ça. C'est. Et tous les matins, avec le petit analyse que vous faites, c'est excellent. Je vous affirme que le Saint-Esprit bénit ça. Est-ce que vous bénissez le café? Mais bénissez la manière dont vous allez boire le café. C'est surtout ça qui est bénissable, c'est l'utilisation du café. Ou du lait, parce que pour certains, c'est le lait. Ça n'a pas d'importance. C'est du noir ou du blanc. Alors, l'utilisation, vous pensez que la sensation, les sensibles propres, sont ordonnés au jugement d'existence. Et les sensibles propres impliquent les sensibles communs. Et les sensibles communs, il faut les découvrir à partir des sensibles propres. Ils conditionnent la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figure, la physionomie, les sensibles. Lorsqu'il s'agit de l'imaginaire, c'est l'inverse. C'est ça la première chose qu'il faut saisir. Et je crois que ce serait très intéressant de comprendre que cette inversion de l'image, de l'icône, va être tout au point de départ de ce que représente ce domaine de la subjectivité première. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de la subjectivité ultime, la personne. Au niveau de la personne, la subjectivité est première. Il ne faut pas l'oublier. C'est la dignité de la personne. Et ici, nous avons le premier moment de la subjectivité. C'est les sensibles communs qui passent devant les sensibles propres. C'est ça l'image. Et c'est pour ça que les synthèses sont possibles. Il n'y a pas de synthèse des sensibles propres, tandis qu'il y a des synthèses des sensibles communs. Puisque c'est la quantité qui passe devant. Et c'est vrai que dans le domaine de l'image, dans notre culture moderne qui est tellement marquée par le cinéma, quand vous étudiez les arts classiques et le cinéma, c'est très important de faire cette étude-là. Vous voyez que les arts classiques, les grands arts, c'est les sensibles propres qui sont mis en pleine lumière. Et le cinéma, c'est les sensibles communs. Très curieux, la réaction de ce petit gosse que son père a amené au cinéma. Il avait, je crois, 7 ans. Et au bout de 3 minutes, il dit, papa, partons, c'est fou tout ça. Je trouvais ça très beau, la réaction d'un gosse. C'est fou tout ça. C'était le film sur Jeanne d'Arc. Il était habitué évidemment aux prairies et aux vaches. Et c'est très très joli de voir ça, vous voyez, l'empoisonnement qui se fait. C'est vrai, il faut comprendre. Télévision, de tout. Et alors on vit progressivement dans ce climat-là. C'était la grande question que Mgr Gilson posait. Première fois que j'ai vu, quand je lui ai dit qu'enseigner la philosophie, il m'a dit ah, important la philosophie, c'est capital. Tout est là aujourd'hui. Regardez comment les enfants apprennent à penser, à réfléchir auprès de la télévision. Ce n'est plus auprès de leur mère. Et c'est très juste. Ce n'est plus auprès de leur mère. Ils apprennent le langage de la télévision. Ils apprennent les images de la télévision. Et donc à partir de là, ils sont dans un immanentisme complet des sensibles communs. Donc il faut saisir ça. Si on ne saisit pas ça, je crains que toute sa vie, on reste dans l'imaginaire. Alors on est des somnambules. On est des somnambules qui guident des somnambules. La foi ne repose pas sur l'imaginaire. La foi s'enracine dans l'intelligence. Ce que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Une intelligence aimante, une intelligence pratique, ou au-delà de l'intelligence pratique, l'intelligence sous la l'influence de l'amour. C'est une intelligence capable de recevoir par l'amour. L'intelligence devient réceptive par l'amour. Et la foi ne s'enracine pas dans l'imaginaire. Dieu se sert de symboles, oui, mais en vue de la réalité, en vue du mystère, en vue du jugement d'existence. Et si vous ne voyez pas le primat du jugement d'existence et que vous êtes croyant, regardez-le dans la foi. Et vous comprendrez que dans la foi, le jugement d'existence prime et donne le sens à toutes les paroles divines. C'est ça le très grand danger, voyez, de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines. C'est qu'elles ne sont plus philosophiques, c'est-à-dire elles ne touchent plus au réel. Jugement d'existence qui touche le réel. Donc, il faut essayer de saisir comment nous pouvons dépasser l'imaginaire qui en soi est bon. Il faut avoir de l'imagination. Un peu de volcan, c'est nécessaire. Un peu de brouillard tous les matins, ça rafraîchit. Mais il faut le dépasser. Il ne faut pas rester dedans. Il faut avoir des images, il faut le dépasser. Il faut avoir des icônes, mais il faut les dépasser. On ne reste pas aux icônes. On touche le mystère dans la foi, et c'est le mystère qu'on touche. Et pour le point de vue philosophique, c'est la réalité existante. Et c'est la réalité seule que l'intelligence atteint. Donc, en face de cet imaginaire qui, dans notre monde d'aujourd'hui, est si puissant, on est dans un cocon qui n'a jamais été aussi puissant. Vous voyez, depuis l'invention du cinéma, depuis l'invention de la télévision, tout ça augmente et intensifie l'imaginaire. Nous sommes une culture de l'imaginaire. Ça, c'est sûr. Hein. Ce qui caractérise la culture d'aujourd'hui, comparativement. Alors, on dit qu'elle est scientifique. Oui, elle est scientifique, mais elle est imaginaire. Avant de scientifique, plus profondément. C'est pour ça que les propagandes marchent tellement bien. Les propagandes marchent admirablement parce qu'elles sont à base imaginaire. Je me souviens d'un de mes anciens étudiants qui était un Écossais, mais un grand Écossais. Ça fait partie, c'est quelque chose d'assez particulier. Au bout de 3 ans qu'il avait quitté Fribourg, il se rendait à Milan et il vient me dire « Mon père, c'est terrible mon métier. Je dois mentir du matin jusqu'au soir. » Et toute la philosophie que j'ai appris me montre que je suis dans le mensonge. Parce qu'il était attaché à une grande boutique, un grand truc énorme, et il était dans les propagandes. Je suis obligé de mentir tout le temps, pour faire que les gens vivent dans l'imaginaire et qu'on puisse les téléguider. Là, je dis, heureusement que vous en apercevez, c'est déjà beaucoup. Je dis, oui, mais c'est pas drôle, alors. C'est évident que c'est pas drôle, mais c'est pas drôle de vivre dans une culture d'imaginaire. On est plus heureux, oui, on est plus heureux, voyez, d'un bonheur fallacieux, si on ne voit pas. Alors on fonce dedans, on fonce dans le brouillard, et on croit que c'est la réalité. Ce que Platon disait d'une façon très juste à propos de la caverne. Les gens restent dans l'apparence. On reste dans l'apparence et on ne touche pas à la réalité. Et Platon avait très bien saisi ça. Et que le rôle du philosophe, c'est de rappeler la réalité. La réalité la plus humble, les sensibles propres, le jugement d'existence. Ce que Platon n'avait pas assez vu. Et puis, le point de vue ultime et dernier, la contemplation. Alors dans l'ordre pratique, en face de cet imaginaire qui enveloppe tout, il faut que progressivement, notre intelligence pratique au service de l'amour puisse permettre à notre intention de vie de naître puisse être un jugement d'intelligence pratique au service de l'amour. Je crois que c'est les trois grands rôles de la prudence. Parce que c'est les trois moments où l'imaginaire risque toujours de tout prendre. Alors on peut prendre deux ordres différents. Oui, puisqu'ils sont trois, on peut prendre. Premièrement, sauvegarder les intentions de vie. Ça, c'est radical. Deuxièmement, sauvegarder le choix. Troisièmement, l'impérium. Et on peut prendre aussi, premièrement, l'impérium. L'impérium implique des choix, et les choix impliquent le jugement de vie. Ça m'est égal, l'ordre qu'on peut prendre. Alors prenons ce qui, pour nous, est le plus concret, puisqu'on est dans l'ordre pratique. La prudence permet de nous réveiller et de dire « fais ceci ». La prudence nous permet, quand nous voulons faire oraison, je prends un exemple très concret du climat de vie dans lequel on vit. La prudence permet aux chrétiens de dire « maintenant tu vas faire oraison, tu ne vas pas continuer ton doux sommeil ». Son oreiller. Pour les gens qui aiment l'oreiller, c'est pas commode. Hein. Et la prudence est là pour nous faire comprendre qu'il y a un changement de vitesse et qu'il faut débrayer. Et que c'est pas automatique. Ça existe au niveau mécanique, mais pas au niveau volontaire. C'est pas mécanique du tout, c'est pas parce que vous êtes sur la station droite que vous n'allez pas continuer d'avoir votre oreiller. Il y a des gens qui oh, si on le voyait, hein, ils sont debout, mais ils ont l'oreiller derrière. Ils continuent de dormir. Parce que la station de droite, très bien, ça aide à quitter l'oreiller. Mais quelquefois l'oreiller, il colle tellement à la tête qu'il reste. T'as qu'à regarder, quoi. Ça se voit tout de suite. L'oreiller est derrière. Alors, il n'est pas carré. Parce que s'il était carré, ça se verrait trop. Alors, on l'a bien mis. Comme pour la douane. C'est extraordinaire ce que c'est que l'imaginaire. Hein. Comme la difficulté de se réveiller. Fais ceci. Réveille-toi. C'est quand même un impérium qu'on fait tous les matins. Bah, évidemment, on dira, ne faites pas ça trop vite, parce que toute la journée, oui, si vous avez un cœur fragile, je comprends, le médecin vous dira, réveillez-vous lentement, lentement. Mettez au moins une demi-heure avant de vous réveiller, n'allez pas trop vite, pas trop vite, parce que votre cœur en prendra un grand coup. Bon, si le médecin vous dit ça, écoutez-le, il est du côté du conditionnement, le médecin. Faut pas l'oublier, sauf ici dans la communauté. Les médecins sont astucieux. Et alors, ils rappellent que la finalité domine le conditionnement. Mais ils font quand même un petit peu attention au cœur. Hein. Parce que les battements du cœur, c'est le conditionnement. Hein. C'est le premier conditionnement, ça. Quand on est jeune, bon, de temps en temps, on doit faire attention. Mais, tant que possible, il y a quelque chose qui dépasse. Fais ceci. Vous voyez, l'impérium. Il faut quitter tout le voile imaginaire pour se remettre devant la réalité qu'on doit faire. L'intelligence pratique dans la prudence. Ce pouvoir de maîtrise de soi, ce que les stoïciens avaient mis tellement en lumière, la maîtrise de soi, c'est un acte de prudence. Un homme prudent, il connaît la machine, il connaît tous les moyens qu'il a. Bon, s'il a le cœur fragile, il mettra un peu plus de temps, mais il sera d'autant plus attentif à la finalité. originalité, fais ceci. Bon, tu sais que tu dois le faire en une demi-heure, parce que tu as un cœur fragile. Tant, si tu n'as pas le cœur fragile, fais-le rapidement et réveille-toi. Fais ceci. C'est l'intelligence qui domine immédiatement ce que nous devons faire pour le rattacher à notre fin. Nous nous réveillons. Pourquoi on se réveille? Pour le plaisir de se réveiller? Non. Parce qu'il y en aurait beaucoup qui ne se réveilleraient jamais si c'était pour le plaisir de se réveiller. À moi, me réveiller, c'est pas du tout drôle. Donc j'aime mieux continuer de dormir. Voyez, la finalité n'est pas présente. Tandis qu'on doit faire que cet acte devienne un acte humain. Et c'est la prudence et l'intelligence pratique, l'anti-brouillard, qui fait sortir de ce que représente cet état particulier du sommeil, pour faire que tout de suite nous nous finalisons. Et tout de suite, l'intelligence pratique qui est en nous domine la multiplicité des actes que nous pouvons faire pour nous réveiller en vue de tendre vers notre fin, de tendre vers notre bonheur, pour aimer plus. Si on est chrétien, si on est religieux au sens le plus radical, on se réveille pour aimer plus Dieu, pour être serviteur de Dieu. Tout de suite, premier acte, on se réveille pour ça. Mais c'est là où la vie chrétienne exige de nous une prudence extraordinairement éveillée. On s'éveille pour aimer. Et donc pour être au service de Dieu. Et ce service de Dieu va impliquer que tout de suite, l'adoration est la première. Parce qu'on est serviteur de Dieu que quand on adore. Là, l'adoration devient l'activité première. Je crois que notre premier imperium, c'est ça. C'est de mettre toute la complexité de notre être qui passe du sommeil au réveil à être éveillé en vue de l'adoration, en vue de faire de nous des serviteurs, serviteurs de Dieu. Si on n'est pas religieux, si on n'est pas chrétien, c'est de passer du sommeil au réveil pour être serviteur des hommes. Auguste Comte dit ça très bien. Je ne sais pas s'il le faisait, mais serviteur des hommes. Si on n'est pas serviteur de Dieu, c'est pour être serviteur des hommes. Et c'est vrai, c'est un service, vous voyez. L'impérium fait de nous des serviteurs. Tout de suite, une mise au service de toutes nos capacités en vue de la fin. Donc c'est toujours en vue d'un amour. Aimer Dieu, aimer le prochain. Parce qu'être serviteur des hommes, c'est les aimer. Donc c'est où la philanthropie, comme on dira, l'altruisme au service des hommes. Je me lève pour que cette journée soit davantage au service des hommes. Voyez ça, on voit très très bien ça. L'humaniste distingué qui dit ça. Et tous les jours, je me lève pour me mettre entièrement au service des hommes. Et pour être parfaitement au service des hommes, je sais toutes mes capacités, toutes mes possibilités qui vont être au service des hommes. Alors ce service des hommes se traduira de multiples manières, mais c'est pour ça, le chrétien, l'homme religieux, dira « Je me lève pour être au service de Dieu. » Et c'est pour ça que la première chose que je fais, c'est d'adorer. C'est de remettre toutes mes capacités en face de Dieu. Cet acte d'impérium est un acte de l'intelligence pratique, c'est-à-dire l'amour. Il se sert de mon intelligence pratique pour comprendre mes capacités à l'égard des moyens, à l'égard de l'application que je peux avoir pour me réveiller, pour adorer, pour faire tel ou tel travail au service des hommes. Cette capacité que j'ai d'éclairer ce moyen qui est celui que je peux accomplir immédiatement. L'application adoration. Être disponible. Liberium, c'est ça. Être disponible. Je prends toutes mes capacités. La maîtrise de soi. La prudence implique cela. On est prudent pour mettre toutes ses capacités au service de ma fin. Alors je lutte, ça ne se fait pas simplement. On doit lutter. Parce que c'est évident que si on prend la spiritualité de celui qui descend le fleuve, donc la spiritualité de la planche ou la spiritualité de l'arbre avant, on ne fera jamais un hyperium. Et il y a des gens qui ne font jamais un hyperium, un acte d'hyperium pendant leur journée. Va comme je te pousse. Ah oui, oui, c'est normal de se réveiller, parce qu'on a dormi suffisamment. Et puis, il ne faut jamais se réveiller par un réveil, parce que le réveil est artificiel, est extrinsèque. Il faut se réveiller quand la nature se réveille. Et j'ai eu bien soin de fermer mes volets pour pouvoir dormir plus longtemps que le jour. Vous voyez, elle n'en fait pas d'acte d'imperium. C'est une vie moelleuse, douce, qui descend le fleuve. Et alors on se réveille, c'est sûr, on se réveille, mais sans imperium. Voyez, le réveil a ça de bon. C'est qu'il m'oblige de faire un acte d'imperium tout de suite. Parce qu'il me réveille au milieu de mon sommeil. C'est agaçant. Je sais bien. Mais cet agacement demande vite d'être dépassé. C'est pour Dieu que j'offre ma journée. C'est cet acte que nous faisons qui est un acte d'intelligence pratique. D'une intelligence affective. Et qui fait que toutes nos capacités sont ordonnées, sont prises en main pour l'offrir. Vous voyez là le dépassement de l'imaginaire et ce regard très limpide de l'imperium qui est un acte d'intelligence pratique, de prudence. L'homme prudent, c'est celui qui a la maîtrise totale de lui pour être capable de se mettre au service du bien qu'il poursuit. Du bonheur qu'il cherche. Ce bonheur est au service de Dieu, au service du prochain. Service de Dieu et dans le service de Dieu, le service du prochain. Ou le service du prochain tout seul. On comprend très bien ces deux attitudes. Et je dis bien, c'est un acte d'intelligence. L'imperium naît. C'est un acte qui implique l'amour, qui implique la volonté. Et même psychologiquement, je dirais que je ne peux m'éveiller que par un acte de volonté. C'est très vrai. C'est ce que je vois le plus immédiat. C'est ce dont j'ai le plus conscience. Il faut avoir de la volonté pour quitter le sommeil et quitter l'oreiller le plus bas. Il faut avoir un acte de volonté. C'est très vrai. Parce que c'est surtout quand il fait froid. Surtout quand on est fatigué. Et que tout réclamerait qu'on s'annule un peu plus longtemps. Et qu'on nous l'a dit. Ce qui était le mieux. C'est-à-dire, tu es fatigué quand même. Tu as une sale tête, il faut dormir. Hein. Tu ne réveilles pas. Alors, il y a toujours en nous un petit diablotin qui nous dit, mais tu es fatigué, mon cher. Mais ne te tue pas. Alors, il faut dépasser ça. L'amour, la volonté est au point de départ, mais c'est une volonté qui est éclairée par l'intelligence. Pour que la volonté soit efficace et puisse lutter contre l'imaginaire, il faut cette intelligence au service de l'amour. Et c'est pour ça que l'imperium est un acte d'intelligence qui ordonne les moyens à la fin. Dans l'ordre de l'exercice. L'imperium, c'est dans l'ordre de l'exercice. Voyez, vous comprenez l'imperium que en réalisant cet acte volontaire au service d'un bonheur, au service d'une fin qu'il faut acquérir. C'est pour ça que certains jours, on se lève très facilement. Les jours de fête. Voyez, quand c'est c'est la fête de Saint-Thomas, on se lève extrêmement facilement, quoi. C'était, parce que c'est un jour de fête, alors ce jour-là, il y aura des cours festifs, c'est un cours particulier, en l'honneur de Saint-Thomas. En l'honneur de Saint-Thomas, on multiplie les cours, c'est une façon de l'honorer. Donc c'est merveilleux, on se lève avec une joie extraordinaire, un jour de fête. Les jours de fête aussi, il y aura quelque chose de plus. Alors, on sait plus facilement, l'amour est plus éveillé. Tandis que quand c'est un jour, mercredi décembre, quand c'est un jour de carême, c'est plus difficile. Vous voyez, il faut que l'intelligence soit encore plus éveillée. C'est très curieux, ça. Vous voyez, quand vous n'avez qu'à réfléchir à vos différents réveils, selon les années, l'année liturgique, selon les saints, selon vos résolutions. On a pris une résolution de se réveiller immédiatement, pas perdre de temps. Parce que celui qui commence à perdre 5 minutes le matin, toute la journée est moelleuse. Parce qu'elle a perdu 5 minutes de temps. Alors elle n'a pas cette espèce d'impact qu'il faut de l'intelligence pratique qui domine tout de suite. C'est très important, ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. C'est une taille qui est bien faite. Et la taille qui est bien faite implique ça. C'est ça le point de vue de l'impériou. Et je prends exprès l'exemple du réveil, parce que c'est là que c'est le plus net. Et vous pourriez multiplier ça à travers toute la journée. Quand vous changez d'occupation, quand vous venez au coup, ça implique un acte d'impériou. Je veux obéir. Ah, vous le dites pas. Mais il faut se le dire de temps en temps. Et même c'est bon de se le dire chaque fois. Parce que chaque fois que vous dites oui, je fais un acte d'obéissance. Et c'est vrai, on fait un acte d'obéissance. En vue de réaliser. Alors, l'imaginaire, lui, quand il s'agit de l'impérium, l'imaginaire empêche l'intelligence de pénétrer l'exercice de nos activités. Pour faire que cet exercice de nos activités, j'allais dire, soit toujours dans un signe d'une descente, c'est plus facile. On fait ce qui est adapté à notre santé, à nos goûts, à notre plaisir. Il n'y a plus d'impérium. En ce sens que l'affectivité est sensible à tout prix. Là, il n'y a plus besoin d'impériou. C'est le caprice. Le caprice dans la vie d'aujourd'hui, j'ai des quantités, empêche l'impériou. Et soi-disant que c'est plus humain. Jean-Jacques, hein, pensez à ça. Parce que nous sommes peut-être loin de Jean-Jacques aujourd'hui, mais il est quand même très présent. Il ne faut pas contrarier la nature, parce que la nature est bonne, tandis que le réveil est mauvais. Alors, il ne faut pas contrarier la nature. Il faut donc que les enfants, on les mène coucher quand ils commencent à dormir. Il ne faut surtout pas leur dire d'aller se coucher. Et il ne faut surtout pas les lever avant qu'ils se réveillent. Surtout pas. C'est très très mauvais. Et la pente glissante, affectivité sensible, les instincts. Et donc on doit lutter contre ça. Parce que ça, c'est ça qui fait que, de fait, au bout d'un certain temps, on n'a pas éduqué quelqu'un. Il n'a jamais fait dans sa vie un acte d'intelligence pratique. Ça existe. Il a vécu dans l'imaginaire pur. On l'a laissé, ses caprices. Mais les caprices, c'est pas l'intelligence pratique. Les caprices, c'est la pente glissante, la dolce vita. Alors on n'a plus qu'à laisser, on n'a plus qu'à se laisser prendre. Alors il faut lutter contre ça. C'est vrai, il faut lutter contre ça pour rejoindre cette domination par rapport aux moyens qu'on a choisi la veille. On a choisi l'avant-veille, peu importe. Les moyens choisis en vue d'atteindre la fin. Et pour ça, il faut mettre rejoindre le réaliste de la fin. Autrement, on se laisse couler. On la coule tous, vous voyez. Donc on se laisse couler. Et il y a plus d'impérium. Alors, il faut analyser ce que c'est que cet impérium. Acte d'intelligence pratique. Et il faut la prudence, un habitus de prudence qui s'acquiert progressivement pour que cet acte d'intelligence pratique puisse submerger l'affectivité, l'imaginaire, les passions, tout ce qui peut arriver, c'est multiple, et qui viennent corrompre cela, et qui empêche de poser ce jugement pratique, et qui empêche de dominer sa vie, et de se laisser prendre d'une façon facile, tout simplement par un contexte. Ça, c'est très très important. Un homme prudent, c'est un homme qui sait poser un acte d'impérium plusieurs fois par jour. Et voyez comment l'acte d'impérium, mettant l'intelligence au service de l'amour, nous fait acquérir ce qu'il y a de volontaire en nous. C'est très vrai que c'est par l'impérium que j'acquiers la volonté, la capacité de poser un acte dans l'ordre de l'exercice. Alors là, il y a une application volontaire. L'intelligence éclaire pour que je sois capable de poser cet acte. Et poser cet acte, c'est je veux poser cet acte. Je veux me réveiller. Je veux être attentif. Je veux faire telle chose. La prudence va nous permettre de poser des choix vrais, puisque l'impérium présuppose le choix des moyens. Et le choix des moyens, nous l'avions déjà vu, peut être contaminé par l'imaginaire, par les passions. Et donc, là encore, nous avons besoin de l'intelligence pratique qui se fortifie grâce à la prudence et qui nous permet de voir avec beaucoup de lucidité. Je crois que c'est là où la lucidité joue. Avec beaucoup de lucidité, le moyen le plus adapté à la fin que nous poursuivons. Voyez, je prends un petit exemple très simple. La question de savoir si on doit assister au cours ou pas au cours. C'est un choix. Vous allez me dire, oh, c'est dans l'obéissance, c'est plus un choix. Partons, c'est un choix. Parce que avant de soumettre à l'obéissance, écoutez, je me demande d'être dispensé des cours pendant cette période parce que j'ai tellement. Vous dire, oh, très bien, très bien. Elle sera confirmée par l'obéissance, parfait. Mais au fond, ce n'est pas l'obéissance qui prend les initiatives dans ce domaine-là. Ce n'est pas l'autorité, c'est vous qui prenez les initiatives. Et vous avez raison. Vous avez raison, il faut les prendre. Quand on doit les prendre. Savoir quand on doit choisir tel ou tel moyen. La lecture de tel livre. Faut-il lire du Kant ou de l'Aristote? Grave question. Faut-il lire Heidegger ou Aristote? Faut-il lire Platon ou Aristote? Faut-il lire Plotin ou saint Thomas? C'est une importante dans la vie, ça. C'est des moyens. C'est des moyens. Alors, ces moyens, vous savez bien, ça dépend. C'est-à-dire, ce sera l'influence du contexte. Si je suis ici à Saint-Jean, difficile de faire passer Kant avant Aristote. Ah, je le ferai en sous-main. Je prendrai les deux en même temps. Puis alors, quand je commencerai par raisonner, oh, c'est dur, je vais prendre Kant. Oh, comme Kant est séduisant. Hein, comme c'est séduisant, Kant. Et c'est vrai, il faut toujours avoir un livre séduisant et un livre dur. Toujours, dans son travail. Mais il faut avoir le courage de dépasser le séduisant pour prendre le dur. Tant qu'on peut prendre le dur. Parce que ça renouvelle le choix. Si vous avez choisi une fois pour toutes, vous ne renouvelez pas votre choix. Alors votre choix s'use. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir deux livres. Le séduisant et le dur. Le doux et le dur.